Chapitre 61. Alors que Kara et Nietzsche descendaient vers l'endroit où se trouvaient les soldats de l'ordre, en tout cas selon Gillian, Richard retourna dans sa tombe et récupéra le plus petit globe lumineux. Afin qu'il ne perturbe pas sa vision nocturne, il le glissa dans son sac. Ainsi, il l'aurait à portée de main s'il devait s'aventurer dans un bâtiment. Fouiller de vieilles bâtisses dans le noir n'était pas vraiment une perspective qui l'enthousiasmait. Gillian connaissait la ville fantôme comme sa poche, et elle y évoluait avec l'aisance d'un chat. Le sourcier et la prêtresse des ossements remontèrent des rues qui disparaissaient presque sous des tonnes de débris. Certaines montagnes de gravats, peu à peu recouvertes par la terre que charriait le vent, ressemblaient à de petites collines et de la végétation y poussait. Richard remarqua un grand nombre de bâtiments où il ne serait entré pour rien au monde, car il tenait encore debout par miracle. Une mauvaise rafale de vent risquait de suffire à les abattre et il n'avait aucune envie de finir ainsi. En revanche, d'autres structures restaient en bon état, relativement parlant, bien entendu. Un des grands bâtiments que Gillian lui fit découvrir était percé d'arches tout au long de sa façade. Richard supposa qu'il y avait jadis des fenêtres, à moins que ces ouvertures aient donné sur une sorte de cour intérieure. Alors qu'il traversait cette cour supposée, le sourcier remarqua que des fragments de mortier craquaient sous ses semelles. Le sol était carrelé en mosaïque. Bien que les couleurs fussent passées depuis longtemps, Richard reconstitua le motif représenté. Un vaste terrain, entouré d'un mur et zébré d'une multitude de sentiers qui conduisaient tous à des tombes.
« C'est une des entrées du cimetière, »
expliqua Gillian. Richard se pencha et étudia plus attentivement la mosaïque. Il y avait quelque chose d'étrange. À la lueur de la lune, des hommes et des femmes portant des plateaux lestés de miches de pain et de quartiers de viande entraient dans le cimetière et croisaient d'autres personnes qui sortaient avec des plateaux vides. Un cri terrifiant retentit dans le lointain. Richard se redressa et Gillian se pétrifia tendant l'oreille. D'autres cris suivirent, plus faibles.
« Qu'est-ce que c'était ?»
demanda la fillette. « Nietzsche se débarrasse des envahisseurs. Quand elle aura fini, les tiens seront hors de danger. »«
Elle fait du mal aux soldats ?»
s'étonna Gillian. Richard comprit que ce concept lui était totalement étranger. « Ces hommes avaient l'intention de torturer ton peuple, puis de le massacrer. S'il reste des survivants, ils reviendront tôt ou tard pour se venger. » Gillian se retourna et regarda dans le lointain, bien au-delà des arches.
« Ce serait terrible, mais les rêves auraient suffi à les chasser. »«
Transmettre des rêves à sauver tes ancêtres, les habitants de cette cité ?»«
Je crois que non. » »«
La seule chose qui compte, c'est que les gens qui chérissent la vie, comme toi, ton grand-père et ton peuple, soient libres et en sécurité. Parfois, ça implique d'éliminer les personnes qui leur veulent du mal. »«
Je comprends, Seigneur Hall. »
Richard, je suis un seigneur Hall qui désire voir les gens vivre comme ils l'entendent. Gillian eut enfin un vrai sourire d'enfant. Richard baissa les yeux et étudia de nouveau la mosaïque. Tu sais ce que représente cette image? Oubliant un moment le cri qui avait déchiré la nuit, Gillian s'intéressa à la mosaïque.
Tu vois ces murs là? Les prédictions disent que les tombes des habitants de la cité doivent se dresser entre eux.
La gamine désigna un point.
Là, c'est l'endroit où nous sommes. Et là, le passage des morts. Les prédictions expliquent qu'il y a toujours eu des morts, mais qu'il n'existe qu'un endroit pour eux dans la cité. Quand on perd un être cher, on ne veut pas qu'il soit enterré très loin de soi. Les anciens habitants refusaient qu'on inhume leurs morts à l'écart de ce qu'ils tenaient pour des lieux sacrés. Ils ont créé un passage afin de conduire leurs défunts quelque part où ils pourraient reposer en paix.
Richard se souvint des paroles de Chota.
« Tu dois trouver l'endroit où sont les ossements, dans le profond néant. Ce que tu cherches est depuis longtemps enterré. »«
Montre-moi cet endroit, » dit-il à Gillian. « Conduis-moi là-bas. »
Le chemin fut beaucoup plus compliqué que Richard l'aurait cru. Pour atteindre la destination, il fallait négocier un véritable labyrinthe de couloirs et de salles dans le bâtiment. Parfois,
On se retrouvait entre deux murs à ciel ouvert, puis on revenait à l'intérieur sans vraiment s'en apercevoir.
« C'est le passage des morts, » dit Gillian. « On transportait les défunts à travers ce dédale. Si le chemin est difficile, c'est, paraît-il, pour que l'âme du mort soit désorientée. Ainsi, les nouveaux esprits ne pouvaient pas revenir aisément dans le monde des vivants. Étant confinés dans l'endroit où nous allons, ils finissaient par prendre la route qui conduit au royaume des morts. »
Le sourcier et sa petite compagne sortirent enfin du bâtiment. La nuit étant tombée, un beau croissant de lune brillait au-dessus des toits en ruine de Casca. D'humeur joyeuse, Loki décrivait de grands cercles dans le ciel et croassait à l'attention de son ami. La petite fille salua l'oiseau d'un grand geste de la main. Le cimetière dans lequel Gillian et Richard venaient d'entrer était de bonne taille. Cela dit, il ne semblait pas adapté à une mégalopole. Un sentier serpentait entre les tombes. Au clair de lune, ce lieu était paisible et non dénué d'une certaine grandeur mélancolique. « Où sont les passages dont tu m'as parlé ?» demanda Richard à Gillian.
« Désolé, mais je n'en sais rien. Les prédictions en parlent, mais n'expliquent pas comment les trouver. »
Richard fouilla le cimetière avec l'aide active de Gillian et il ne trouva pas l'ombre d'un passage et encore moins de plusieurs. Bref, cet endroit ressemblait à tous les cimetières qu'il avait vus. Certains monticules de terre portaient une multitude de stèles, et les tombes couvertes de marbre étaient serrées les unes contre les autres. Beaucoup de pierres tombales gisaient sur le sol, renversées par le vent, la pluie ou simplement le passage des ans. Richard n'avait plus beaucoup de temps et il ne pouvait pas rester à Casca à écouter le chant des cigales jusqu'à la fin de la guerre. Cette histoire ne menait à rien. S'il voulait trouver des réponses, il devait aller là où il y en avait, et le profond néant n'entrait pas dans cette catégorie. Au palais du peuple, en Dara, Richard aurait à sa disposition des grimoires que Jagang lui-même n'avait jamais eu l'occasion de consulter. À coup sûr, il y dénicherait plus d'informations que dans un cimetière abandonné. Le sourcier s'assit au pied d'un olivier et entreprit de planifier ses prochaines actions. « Tu connais un autre endroit où nous pourrions trouver les passages mentionnés par les prédictions ?»
Gillian eut une moue dubitative. « Désolé, mais la réponse est non. » « Quand il n'y aura plus de danger, nous pourrons descendre parler à mon grand-père. Il sait beaucoup plus de choses que moi. »
C'était sûrement vrai, mais Richard doutait d'avoir beaucoup de temps à consacrer aux histoires d'un vieil homme. Pas très loin du sourcier et de la fillette, Loki se posa sur le sol pour s'offrir un festin de cigales. Après 17 années passées dans la terre, la plus grande partie de ces insectes en émergeait pour servir de nourriture à des prédateurs tels que le corbeau de Gillian. Richard se souvint de la prophétie que lui avait lue Nathan. Le texte parlait des cigales. Soudain, Richard se demanda pourquoi. Selon la prédiction, le retour des cigales annoncerait l'imminence de la bataille finale, car le monde était au bord des ténèbres. Le bord des ténèbres. Richard regarda de nouveau les cigales qui sortaient de sous la terre. Il y avait quelque chose d'étrange. Tous les insectes émergeaient dessous la même stèle renversée sur une tombe. Ayant remarqué cette bizarrerie, Loki festoyait sans devoir fournir l'ombre d'un effort. « C'est bizarre, » marmonna Richard.
« Quoi donc ?»
demanda Gillian. « Regarde, les cigales ne sortent pas de la terre, mais dessous une seule et même stèle renversée. » Richard s'accroupit et passa une main sous la pierre rectangulaire. Il sentit un grand vide dessous. Sous le regard intrigué de Loki, Richard glissa les deux mains sous la stèle et banda ses muscles. Au début, rien ne se passa, puis la stèle consentit à se soulever. Après quelques secondes, Richard remarqua qu'il y avait une charnière sur le côté gauche de la pierre. Il força un peu plus et réussit à ouvrir la sinistre cachette. La stèle n'était qu'un trompe-l'œil. Elle gisait sur le sol depuis toujours et servait à fermer un passage secret. Richard sortit le globe magique rangé dans son sac. Dès que la lueur fut assez forte, il passa l'artefact au-dessus du trou vide.
« Un escalier ?»
souffla Gillian, terrorisée. Les marches en pierre, étroites et irrégulières, descendaient en droite ligne jusqu'à un premier palier où Richard et Gillian prirent l'intersection de droite. Au bout d'un long couloir rectiligne,
ils tournèrent à gauche et continuèrent leur chemin. Quand ils eurent avancé assez longtemps, toujours tout droit, ils débouchèrent dans une série de corridors dont les sorts de protection semblaient désactivés. Tenant la main de Gillian d'un côté et levant son globe magique de l'autre, Richard dut très vite se plier en deux pour ne pas s'assommer contre la voûte. Très rapidement, le sourcier et sa petite compagne se trouvèrent devant une nouvelle intersection.
« Les prédictions disent quelque chose sur le chemin à suivre ici ?»
demanda Richard. Gillian secoua la tête.
« Très bien. Je vais ouvrir la marche. Si tu reconnais une route ou un point de repère, n'hésite pas à m'avertir. »
Dès que la fillette eut approuvé du menton, les deux explorateurs se remirent en chemin. En remontant un passage plus étroit, exigu aurait été le terme précis, ils commencèrent de découvrir des alcôves taillées dans la pierre. Chacune contenait au moins le corps d'un inconnu. Dans certaines, on avait empilé 4 ou 5 cadavres. D'autres en renfermaient 2, sans doute des couples mariés. D'antiques peintures restaient visibles sur le mur tout le long du couloir. Ces fresques représentaient des fidèles venus rendre hommage aux défunts, des sous-bois envahis de lianes et quelques motifs géométriques du plus bel effet. La diversité des styles et la qualité très variable de ces œuvres laissaient penser qu'elles avaient été réalisées par les proches des morts entreposés dans cette étrange crypte naturelle. Le long couloir finit par déboucher dans une salle d'où partaient une dizaine de tunnels identiques. Richard en choisit un au hasard et le remonta à grandes enjambées. Comme les autres, ce tunnel donnait sur une petite place où prenait naissance un véritable réseau de passages obscurs. Descendant le plus souvent, le sol remontait parfois abruptement, mais ça ne durait jamais longtemps et la descente reprenait épuisante de monotonie. L'ennui de Richard et de Gillian se dissipa dès qu'ils commencèrent à découvrir des ossements. Des salles en étaient pleines à craquer. Entreposées dans des alcôves, comme les dépouilles, les os étaient soigneusement classés par catégorie. À tout seigneur tout honneur, la première alcôve contenait des centaines de crânes méticuleusement empilés. Des clavicules s'entassaient dans la deuxième et des tibias dans la troisième. Des vasques taillés à même la roche abritaient des ossements plus petits et difficiles à empiler. Richard et Gillian continuèrent leur chemin et passèrent devant de véritables murs de crânes qui devaient être composés de dizaines de milliers de pièces. Conscient de n'explorer qu'un passage sur des dizaines, Richard osa à peine imaginer combien de cadavres étaient inhumés dans ces catacombes. Si terrifiant que fût ce spectacle, on sentait que tous ces ossements avaient été traités avec amour et respect. Aucun ne gisait sur le sol, ni ne reposait seul dans quelque cavité naturelle. Ultime témoin du passage en ce monde d'un être vivant, tous avaient reçu les honneurs qu'ils méritaient. Richard et Gillian marchèrent pendant plus d'une heure dans le dédale de tunnels. Toutes les sections étaient différentes au gré des caprices de la nature. Certains passages suffisaient à peine pour que deux personnes y marchent de front, et d'autres donnaient sur d'immenses cavernes dont la voûte se perdait très haut dans les ténèbres. Au bout d'un moment, Richard comprit que toutes les alcôves avaient été creusées volontairement pour fournir un espace funéraire à une famille ou à un groupe d'individus. La configuration des lieux ne devait rien au hasard, mais pour le comprendre, il fallait adopter la logique de leur constructeur. Le sourcier et la fillette se trouvèrent soudain devant l'entrée d'un tunnel dont une grande partie s'était éboulée. Richard s'arrêta et étudia le tas de pierres.
« Je crois que nous n'irons pas plus loin, Gillian. »
La fillette ne répondit pas. Très concentrée, elle alla s'accroupir devant un gros bloc de pierre et tenta de regarder dessous et sur les côtés.
« On peut passer par là ?»
dit-elle en se tournant vers Richard. Ses yeux brillaient intensément sur le fond noir du masque dessiné à même sa peau. L'enfant ajouta
« Je suis plus petite et plus mince que toi, Seigneur. Tu désires que j'aille jeter un coup d'œil ?»
Richard éclaira brièvement le minuscule passage.
« J'aimerais bien, oui. Mais rebrousse chemin si ça devient dangereux, compris ? Il y a des centaines de tunnels ici et celui-ci n'est pas différent des autres. »
« Tu te trompes, Richard. » « Il est particulier parce que c'est toi qui l'as découvert. »«
Gillian, je ne suis qu'un homme. Cesse de me prendre pour un esprit revenu du royaume des morts. »«
Si tu le dis, Richard, »
fit la gamine avec un petit sourire. Sur ces mots, elle se glissa dans une crevasse triangulaire et disparut en un éclair.
« Seigneur Hall !»
appela-t-elle quelques secondes plus tard.
« J'ai trouvé des livres !»«
Des livres ?»«
Oui, tout un tas. Il fait sombre là-dedans, mais je crois que c'est une grande salle remplie de livres. »«
J'arrive !»
Pour avancer, Richard dut ôter son sac de ses épaules et le brandir à bout de bras devant lui. Si le passage était étroit, il suffisait de rentrer le ventre au bon moment. Du coup, l'épreuve se révéla moins traumatisante que prévu. Une fois qu'il fut passé, Richard s'avisa que le bloc de pierre qui bloquait le chemin était jadis une porte. Conçu pour pivoter dans une cavité creusée dans la paroi de droite, le lourd triangle de pierre s'était fissuré, un défaut structurel probablement aggravé par la taille, puis brisé en deux. Basculant de son logement, il était devenu un obstacle plus impressionnant qu'efficace. En étudiant la paroi, le sourcier découvrit une plaque métallique semblable à celle de la forteresse du sorcier. Savoir que les livres étaient protégés par un champ de force réveilla son enthousiasme. Levant son globe magique, il étudia un moment la salle. Elle était immense, avec des cloisons disposées dans tous les sens et selon tous les angles, sans doute afin de désorienter les visiteurs. Richard et Gillian longèrent les rayonnages lestés de livres. Beaucoup d'étagères étaient simplement taillées dans la roche, exactement comme les alcôves, les niches et les vasques qui contenaient les ossements. Richard leva son globe magique pour déchiffrer les titres de certains grimoires. « Gillian, dit-il, je cherche quelque chose de très spécifique. La chaîne de flammes. Il peut s'agir d'un ouvrage. Prends un côté et je m'occuperai de l'autre, mais fais attention à ne pas rater un livre. »
S'il y a quelque chose à trouver, nous trouverons.
L'antique bibliothèque était immense, de quoi décourager n'importe qui. Alors qu'ils avançaient, chacun se chargeant d'un côté comme prévu, ils entrèrent dans un corridor étroit où d'interminables rayonnages se faisaient face à moins de deux pas de distance. Se gênant l'un l'autre, le sourcier et sa petite compagne progressèrent encore moins vite. Il leur fallut des heures pour en terminer avec cette aile particulièrement étroite de la bibliothèque. En chemin, ils passèrent devant des salles latérales plus petites, mais remplies d'ouvrages qu'ils explorèrent avec la même minutie que les plus grandes. Pour ne rien arranger, ils durent assez souvent essuyer la poussière qui dissimulait le titre des volumes. Alors que Richard n'en pouvait plus de fatigue et d'agacement, la fillette et lui se trouvèrent tout d'un coup devant une muraille nue, dépourvue de portes. Sans s'inquiéter, le sourcier chercha une plaque métallique, la trouva sans peine et plaqua la paume dessus. Un panneau de pierre plutôt étroit pivota pour révéler une pièce obscure où flottait une odeur de renfermé. Richard espéra que la plaque avait simplement reconnu son don et neutralisé le champ de force. S'il s'était passé davantage que cela, la bête risquait de se matérialiser dans les catacombes où elle aurait un avantage énorme sur sa proie incapable de fuir. À la lueur de son globe, Richard constata que la salle n'était pas bien grande. Il y avait des rayonnages partout, comme dans les précédentes, et aucun meuble à part une table réduite en miettes par la section de la voûte qui s'était écroulée dessus. Gillian commença d'étudier les livres. Avisant une autre plaque de métal au fond de la pièce, Richard avança et plaqua la paume dessus. Une autre porte invisible coulissa. Le sourcier se pencha pour la franchir.
« Maître, tu veux voyager ?»
lança une voix familière. La lumière du globe se refléta sur le visage de vif argent de la créature. Richard venait d'entrer dans la salle du puits, à savoir l'endroit où il était arrivé. La porte qu'il venait de franchir se découpait juste en face de l'escalier qui conduisait hors du cénotaphe du seigneur Richard Rall. Gillian et lui avaient marché presque toute la nuit pour revenir à leur point de départ.
« Richard !»
dit soudain la fillette.
« Regarde !»
Le sourcier se retourna et vit que l'enfant brandissait un livre à la couverture en cuir rouge. Quatre mots y étaient écrits en lettres d'or. « La chaîne de flammes !» Richard en eut le souffle coupé. Rayonnante, Gillian le rejoignit dans la salle de la Slif et lui tendit l'ouvrage. comme s'il regardait la scène de très loin, spectateur attentif de sa propre vie. Richard se vit saisir entre des mains tremblantes le grimoire intitulé « La chaîne de flammes ».